Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Un jour, il faut partir. Par choix pour les uns, mais souvent par nécessité pour les autres. À cause de la guerre, de la faim, de la peur, en tout cas vers un avenir meilleur. À pied, à cheval, en train, en navire, tous les moyens sont bons pour s'enfuir, mais tous les voyages ne connaissent pas un heureux dénouement pour autant. Bonjour Anna Moy.
Bonjour.
Partir, c'est ce que font vos deux personnages. Les deux personnages de votre nouveau roman paru sous le titre « 12 palais de mémoire » chez Gallimard. Un père et sa fille de 6 ans, obligés de quitter leur pays, fracturés par une révolution. On ne sait pas où ni quand, mais à leur prénom, Can et Tien, et l'histoire qui se dévoile en creux, on devine le Vietnam, d'où vous êtes originaire, et la fin des années 70, qui a vu l'exode de milliers de gens. Mais ici, si vos protagonistes partent aussi par la mer, c'est sur un petit bateau sur lequel ils embarquent avec à bord un pêcheur et son fils. C'est donc une odyssée plutôt intime, quatre humains et un chien, et non les terribles boat people surpeuplés qui ont fait la une à cette époque et dont vous-même, Anna Moy, avez parlé dans votre livre « Vietnam » paru en 2007. Quel a donc été le point de départ de cette fiction que vous publiez aujourd'hui ?
Le point de départ, c'est justement ce livre que j'avais écrit, Vietnam. C'était un livre touristique, enfin un beau livre, comme on dit.
Illustré.
Illustré, voilà, de photos. Et je m'étais intéressée au sort des boat people en écrivant le livre, parce qu'on ne peut pas l'ignorer, tout simplement. J'ai commencé à faire pas mal d'interviews en vue d'écrire un roman sur le sujet. Mais comme toujours, quand j'ai une idée de roman en tête, je ne sais pas très bien comment l'aborder. Et il se trouve que l'une des personnes interviewées était une Vietnamienne qui vivait aux États-Unis, en Californie. Et je lui ai dit, mais ça devait être terrible pour toi de partir comme ça. Moi-même, je n'avais pas vécu l'expérience. Et elle était partie à l'âge de 6 ou 7 ans. Elle s'est retrouvée sur une île en Malaisie, Pulau Bidung, je crois. Et elle m'a répondu, ah mais non, mais c'était formidable. J'avais adoré. J'étais un enfant, je ne me rendais pas compte. Et on était sur la plage, il n'y avait pas école. Donc c'était formidable. Et alors là, j'ai eu l'idée d'écrire un récit avec cette voix innocente. Et quand j'ai commencé à écrire, je me suis aperçue que non, je n'allais pas pouvoir développer 200 à 250 pages avec une voix d'enfant. Je n'y arrivais pas. Et donc, j'ai introduit le père, un adulte, et avec cette idée que les deux vivaient la même expérience, mais ne voyaient pas le monde de la même façon. Donc, au départ, il y avait bien quand même cette idée de boat people. Mais en cours de route, je n'arrivais plus à écrire du tout. Et j'ai compris que ce n'était pas mon propos, finalement, de ce livre. Ce n'était pas politique, bon, même s'il y avait cette indignation au départ. C'était plus, je dirais, un propos philosophique, peut-être. Le départ, vous savez, comme le départ, partir.
Effectivement, c'est ce qui fait toute la valeur et la saveur de votre roman, Anna Moy. Je m'arrête juste un instant sur ce que vous venez de dire. Vous n'avez pas connu ça. Dans quelles circonstances, alors, êtes-vous partie de Saigon, du Vietnam, et pourquoi ?
En avion, en 73, parce que je suivais des études, en fait, au lycée Marie Curie de Saigon, qui était un lycée français. Et j'avais obtenu une bourse pour venir en France faire des études. Donc je suis partie légalement, si je puis dire, 2 ans avant la chute de Saigon.
Donc dans des circonstances beaucoup plus paisibles.
Tout à fait, oui.
Revenons au roman, donc, avec ici ce voyage raconté de ces deux points de vue, comme vous venez de nous le dire, celui du père Kahn, ce brillant mathématicien, veuf, et de cette petite fille Tienne, 6 ans. Et c'est vrai que ce qui est formidable avec cette alternance de récits, c'est qu'il raconte à peu près les mêmes événements. Nager la nuit dans l'eau pour retrouver dans la clandestinité ce bateau qui va les emmener loin, vivre, naviguer, croiser des pirates, se retrouver abandonné seul au monde. Mais l'histoire est totalement différente dans leur voix parce qu'ils ne voient pas les situations de la même manière. Et c'est vrai que déjà c'est la magie du propos, c'est la poésie. J'imagine que c'est aussi ça le moteur de votre écriture, Anna Moy.
En effet, je me suis toujours intéressée dans mes récits à la dualité de point de vue. Dans mes romans, il y a toujours deux personnages, deux sœurs, deux amies, et là, père, une fille. Je pense que ça vient peut-être du fait que j'appartiens à deux cultures très différentes, de fait, la culture française et la culture vietnamienne. Et que donc, parfois, ça clash dans ma tête, parce que, voilà, je n'ai pas un point de vue absolument ferme sur les choses.
Et donc, pour survivre, Kahn va se réfugier dans son espace mental, parce que lui, en tant qu'adulte, il vit cette aventure, ce départ et ce deuil vraiment comme un traumatisme. Et son espace mental est composé des 12 palais de mémoire. Est-ce que c'est une de vos inventions, Anna Moy, ou cette notion existe réellement dans la culture vietnamienne?
La notion de mémoire n'existe pas dans la culture vietnamienne. Je dirais même du tout.
Vous voulez dire qu'on ne pense jamais au passé?
On ne cultive pas le passé. Les musées, par exemple, ont été créés par les Français, mais nous, on n'avait pas de musée, on n'avait pas ce culte du passé. Et je dirais même, une fois, un poète vietnamien m'a dit une chose extraordinaire. C'était un poète et compositeur très connu, qui s'appelle Jing Komson, qui a écrit des mélodies extraordinaires d'amour et de guerre dans les années 70. Et je lui rends visite, je lui ai dit, vous avez beaucoup composé dans votre vie, est-ce que vous savez combien de chansons vous avez composées? Il m'a répondu, je ne sais pas, je cultive l'oubli. Voilà, donc on cherche plutôt à oublier et à tourner le regard vers l'avenir. D'où d'ailleurs qu'il n'y a pas de ressentiment vis-à-vis des colons français. Il n'y a pas de ressentiment vis-à-vis des Américains, parce qu'on est tourné sur ce qui va se passer maintenant et plus tard, mais pas sur ce qui s'est passé avant.
Donc c'est la part européenne en vous, Anna Moy, qui vient instiller dans ce roman très vietnamien par ailleurs.
Exactement.
La notion de la mémoire.
De la mémoire, oui, oui. Et alors en fait, vous savez, moi-même j'ai une mémoire... normal, je vais dire. Pas extraordinaire, hein. C'est-à-dire que bon, je retiens les choses, mais bon, je n'ai pas. Et, en fait, ma perspective sur la question de la mémoire s'est modifiée au moment où j'ai eu des enfants. Et en particulier, je peux dater cette constatation de façon précise. C'est qu'un jour, mon deuxième fils, Léon-Paul, qui était à l'école primaire, 7 ou 8 ans, petit enfant, m'a dit à l'école, on m'a fait apprendre par cœur un poème, je vais te le réciter. Et c'était Les Conquérants de José María de Heredia. Comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de Palos, de Moguer, routiers et capitaines partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Je ne sais pas si vous avez entendu la complexité des mots, mais ce petit gamin qui me répète ce poème par cœur jusqu'au bout, où à la fin il est question d'ailleurs de mer et de tropiques, la dernière phrase c'est « du fond de l'océan, des étoiles nouvelles ». Ça m'a donné une autre vision du monde, en me disant que ben, y a des gens qui sont doués pour la mémoire, comme mon fils et d'ailleurs mes trois fils. Depuis cet événement-là, je leur ai demandé à chacun de mes anniversaires et à chaque célébration de Noël de me réciter un poème. Et c'est même arrivé qu'un jour, l'un de mes fils était, toujours le même en fait, Léon-Paul était, il était en stage à Hanoï et c'était mon anniversaire au mois d'août. Et il m'appelle donc avec le décalage horaire et dit « Maman, tu es assise ?» Je venais de m'asseoir au restaurant, je lui ai dit oui, et il m'a récité un poème comme cadeau d'anniversaire.
Quelle jolie histoire. Et donc ce culte de la mémoire, qui n'est pas une valeur vietnamienne, comme vous venez de nous l'expliquer, Anna Moy, en revanche, vous l'infusez à votre personnage, Khan, qui a 12 palais. On pourrait les citer avec en premier, enfin pas tout à fait, parce que j'ai cru comprendre que le chiffre 1 était un chiffre tabou.
Tabou.
Donc on ne peut pas commencer par le premier palais, il faut parler tout de suite du palais numéro 2, c'est cela ?
Alors le chiffre 1 est tabou, surtout d'ailleurs pour les questions de naissance et de fratrie, parce que il ne faut pas nommer le premier enfant, il n'est pas né. Pour tromper le diable ou le mauvais génie, etc. Donc voilà, il fallait commencer par le 2.
Alors les 12 palais, est-ce que vous pouvez les citer de mémoire, Anna Moy ?
Ah non, mais je n'ai pas de mémoire, donc je ne peux pas vous les citer.
Alors, moi, il me semble qu'il y a l'amitié, l'immobilier, les mathématiques, les affaires, la famille,
l'amour, non ?
Et l'amour, ouais, l'amour, bien sûr. Oui. Et l'amour, c'est le palais, évidemment, dans lequel il se rend le plus souvent.
Et qui contient un secret.
Et qui contient un secret.
Concernant l'amant de sa femme.
Cette femme qu'il a tant aimée, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais ce qu'on apprend en vous lisant, c'est qu'avec elle, il dansait le tango sur la musique d'Astor Piazzolla. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec Anna Moy, aujourd'hui notre invitée, qui publie 12 palais de la mémoire chez Gallimard, le voyage d'un père et sa fille en mer vers un pays de liberté. C'est un roman d'initiation pour l'enfant de 6 ans, mais aussi un rite de passage, car cette traversée au sens propre du terme est aussi la traversée vers un autre monde, une autre vie, une autre langue, une autre culture, en un mot, l'exil. Et pourtant, vous faites dire à votre personnage principal, Khan, « Je pense sans mélancolie au pays que j'ai quitté. » Et vous, Anna Moy ?
Alors, c'est compliqué, évidemment. Mais vous savez, il y a cette culture en France de l'intégration, de l'universalisme, si vous préférez, hein, qui s'oppose à ceux qui pensent qu'il faut contraire, cultiver les origines. Donc, quand je suis arrivée en France, il était important pour moi de devenir française. Et pour ce faire, j'ai oublié ma culture d'origine. Pour ne pas trop souffrir aussi, je pense. Mais de ce fait, j'ai pas mal oublié ma langue natale. Dans un texte, j'ai écrit que j'ai accompli le meurtre de la langue maternelle. Et donc, il n'y avait pas de ma part de mélancolie de l'exil. Puisque j'avais décidé que j'étais en France, et que c'était la France, mon pays, et puis voilà. Plus tard, en fait, quand le Vietnam s'est ouvert, il m'a été possible d'y retourner. Et même avec mon mari et mes trois enfants, nous y avons vécu presque 20 ans. Donc, il n'y avait pas de nostalgie, puisque je vivais au Vietnam et je revenais en France l'été. Donc, voilà, j'étais à cheval sur les deux pays. Et toujours maintenant, d'ailleurs, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je suis plus en France et je fais un voyage au Vietnam tous les ans, sauf cette année. Mais sinon, je retourne au Vietnam une fois ou deux par an. Donc, il n'y a pas de cette souffrance de l'exil.
Il y a d'autant pas de mélancolie, en effet, qu'on a l'impression que ce pays continue de vivre en vous, à l'image de cette culture qui irradie votre écriture dans tous vos livres. Et ici, évidemment, avec, par exemple, cette légende dont la petite Tienne se souvient quand elle est sur le bateau. Est-ce que vous voulez bien nous la lire, Anna Moy, cet extrait de votre roman ?
Il y a un bruit d'eau aussi, comme quand l'eau jaillit de terre dans la légende des trois lacs. Dans cette histoire, au début, il n'y a pas trois lacs, ni un lac, ni deux. Juste un village avec une foire par an, où tout le monde va pour faire de bonnes actions, comme de lâcher des oiseaux que d'autres personnes mettent en cage. On achète les oiseaux en cage devant le temple. Quand on a payé, on ouvre la porte de la cage et l'oiseau s'envole et c'est tout. Cela porte chance, c'est-à-dire des sous. Dans la foule, tout le monde repousse une pauvre mendiante. Les filles s'enfuient quand elles voient la vieille. La lépreuse, la lépreuse. Il y a seulement une mère et sa fille qui lui donnent à manger et à coucher malgré son odeur puante. Le lendemain matin, la vieille se venge de tout le monde, sauf de la mère et sa fille. Ils disent honorer les dieux avec leur lâcher d'oiseaux, mais c'est du commerce du divin qu'ils font, et vous êtes les seuls à avoir compris la charité humaine. Elle leur donne une cosse de riz vide. Vous verrez, elle vous sera utile. Le lendemain matin, un jet d'eau sort de terre au milieu du village, puis grossit tellement que toutes les maisons et les poulaillers et les enclos de cochons sont engloutis, sauf la maison de la mère et la fille qui flottent sur le nouveau lac. La mère sort la cosse de riz, la fend en deux, et voilà que les moitiés se transforment en barque et elles sont sauvées. Le village, c'est maintenant le lac aux trois bassins avec une île au milieu qui était leur maison.
Merci Anna Moy pour la lecture de cette légende qui est donc au cœur de ce nouveau roman Douce Palais de mémoire, où on l'entend là, les légendes, la culture, l'histoire, le paysage, la nature. Et précisément dans ce livre, c'est à nouveau un formidable éblouissement de la mer bien sûr, mais aussi des animaux marins, les baleines, un dauphin, des éléphants, des mouettes, les poissons, le corail. C'est littéralement le paradis que vous nous décrivez, Anna Moy.
Alors pour moi, ce n'est pas du tout le paradis.
Pourquoi ?
Parce que je déteste la mer.
Mais ça alors, et pour quelle raison ?
Je pense que c'est atavik en fait. Les Vietnamiens n'aiment pas la mer. Parce que la mer est meurtrière, elle tue les pêcheurs.
Et mais elle donne à manger aussi.
Oui, mais culturellement, nous sommes un peuple de cultivateurs. Et donc, la noblesse est dans le fait de cultiver le riz. Et cultiver le riz, ça veut dire aussi posséder des rizières, donc de la terre. Et ça, c'est très important. les pêcheurs n'ont pas de terre. Et donc, au Vietnam, ils sont très très mal considérés. Ce sont des gens sans terre. Vous êtes sur un bateau parce que vous n'avez pas de rizière. Et par ailleurs, il y a des typhons en mer de Chine. Et donc, il y a des morts tous les ans en mer. Et donc, c'est tenu en fait. Les pêcheurs font ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais s'ils avaient le choix, ils casseraient leur bateau et ils resteraient à terre pour cultiver le riz.
Mais comment faites-vous, Anna Moy, détester à ce point la mer et en faire un tableau si magnifique et si rayonnant?
C'est mon métier.
Mais vous vous êtes fait violence?
Alors, en fait, j'avais envisagé de faire une croisière en mer, en haute mer. Et j'avais fait une tentative pour, comme ça, embarquer sur un paquebot. Et puis finalement, je ne sais plus très bien pourquoi, d'ailleurs, ça ne s'est pas fait. Mais il se trouve que j'avais parmi mes relations de tango un capitaine au long cours avec qui j'ai discuté de ça et à qui j'ai demandé des renseignements, mais comment ça se passe quand on arrive à un port. Je lui dis, il faut que tu m'expliques, que tu m'en dises plus pour que je puisse inventer à partir de là. Et il m'a dit, mais tu es écrivain. Tout ce que tu inventeras, tout ce que tu écriras sera vrai. Donc ce n'est pas la peine de chercher des faits, quoi. Et donc je l'ai écouté et j'ai créé cet univers qui évidemment devait me plaire, sinon je n'aurais pas pu écrire.
Voilà. En fait, vous aimez la mer via la littérature.
Voilà, exactement. Via José María de Heredia ou Paul Valéry ou...
En tout cas, ce paradis, de mon point de vue, fait aussi écho évidemment à un enfer, un autre enfer, celui des malades de la lèpre. Et d'ailleurs, il en est question aussi dans la légende que vous nous avez lue, dont vous parlez plus précisément dans ce livre, ces malades qui sont rassemblés dans un village, à l'écart, comme s'ils étaient maudits, parce qu'ils font peur physiquement, mais on a aussi la terreur d'être contaminé. Cette société ne veut pas les voir, même si pourtant on arrive à les soigner, ce qui est le cas ici. La femme de votre personnage, Oa, elle réussit. Et je m'arrête là. Pourquoi est-ce que vous avez voulu parler de ces malades, Anna Moy?
C'était un sujet qui m'indignait depuis très longtemps au Vietnam, de savoir comment ces gens sont traités, sont maltraités par la société.
Mais encore aujourd'hui, ça existe ou la lèpre a été éradiquée?
Je ne suis pas sûre qu'elle a été éradiquée. J'ai vu un reportage il y a de cela une dizaine d'années, donc ça ne fait pas non plus très longtemps, qui avait été filmé par une de mes amies cinéastes vietnamiennes pour la télévision vietnamienne. Et il y avait encore ces villages où sont enfermés. Alors, je ne sais pas s'ils sont lépreux eux-mêmes ou issus de familles lépreuses, mais vous savez, c'est comme les Dalits, on est lépreux, enfin...
De génération en génération.
Voilà, en génération, enfin, ouais. Entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas, pas forcément les signes de la maladie. Mais c'était quelque chose qui m'indignait, donc je voulais parler de ça.
Et c'est aussi un des points noirs, évidemment, de l'histoire de Cannes, parce que quand il se remémore ces dernières semaines, ces derniers mois, on entend la répression, les militaires, les camps, l'interdiction de la libre expression, le poids des doctrines. Est-ce que vous en avez souffert, vous aussi, Anna Moy?
Non, non, non.
Quand vous êtes partie en 1973?
Oui, c'était avant la fin de la guerre. Et moi, j'avais vécu dans un régime libéral, certes, avec une censure forte, hein, tout de même. Et malgré tout, c'était un régime libéral. On n'était pas endoctriné. Oui, il n'y avait pas ce système totalitaire. Donc, je mentionne cela parce que ça a existé.
Ça a touché votre famille, peut-être?
Pas vraiment, mais ça a touché des proches, bien sûr. On a forcément des proches qui ont été dans des camps de rééducation, qui ont... voilà.
En tout cas, ça n'explique pas votre choix d'écrire en français, par exemple. Ce n'est pas un rejet de la langue vietnamienne, c'est parce que vous viviez en France?
Alors, un rejet, non. Je n'ai pas de... raison de rejeter le Vietnamien. Mais en fait, je vous parlais de cette question d'intégration tout à l'heure. Il y a un moment où on va privilégier une langue. Et moi, vivant en France, à l'âge adulte, je suis arrivée à l'âge de 18 ans, j'ai privilégié le français pour pouvoir vivre en France. Et quand vous faites ça, bon, même en étant très doué, on n'arrive plus à, enfin, on n'arrive pas à avoir le même vocabulaire dans deux, trois langues. Bien évidemment, parce qu'il faut les entretenir, et notamment il faut lire. Et je n'avais pas vraiment accès à des lectures en vietnamien. Donc j'ai oublié une partie de la langue. Quand je suis revenue vivre au Vietnam en 92, donc. En plus, la langue avait changé. Vous savez, les langues changent. Et tout à coup, je m'aperçois que les gens disent des mots que je ne connaissais pas. Donc, c'était trop compliqué pour moi de me réadapter. Et en fait, j'ai commencé à écrire quand j'étais au Vietnam. Ça aurait pu être le contexte idéal pour renouer avec la langue et écrire en vietnamien, mais ce n'est pas possible, en fait, parce que je ne la maîtrisais plus, d'une part. Et d'autre part, écrire en vietnamien, mais pour qui? Parce que la censure existe. Donc, si c'est pour écrire à quelques apparatchiks, ce n'est pas très intéressant sur le plan littéraire. Alors, il y a trop de problèmes, vous savez. Il y a un moment où ça facilite la vie, quand même.
Est-ce que c'est un livre qui naît aussi des nombreux flux migratoires ces derniers temps?
Oui, bien sûr que j'avais à l'esprit tous ces gens qui fuient par la mer, l'image de petits garçons échoués sur la plage. Bien sûr, tout ça, ça a ravivé complètement, bien sûr, le souvenir des souffrances des boat people vietnamiens.
Et en même temps, vous faites un livre très poétique, très lumineux, et j'ai envie de dire optimiste. Est-ce que je me trompe, Anna Moy?
Ça, c'est peut-être ma nature, tout simplement. Je pense que je suis quelqu'un d'optimiste. Je crois toujours que la vie sera meilleure demain. Et d'ailleurs, vous savez, il y a eu des enquêtes, alors je ne sais plus par quelle agence de... Comment est-ce qu'on dit vous
savez, sondage, non?
Oui, je ne sais pas quelle agence de sondage a publié récemment des enquêtes sur le sentiment de bonheur, le sentiment du bonheur. Et il y a 3 ou 4 ans, le Vietnam est arrivé en tête. C'est que les Vietnamiens, malgré tout ce qu'ils ont vécu, vous voyez d'où l'importance de l'oubli. Ils sont heureux et ils croient au lendemain qu'ils chantent.
Quelle belle leçon. Et ça... C'est par la littérature que vous transmettez aussi cette vision du monde.
Et puis de transcender une réalité qui n'est pas forcément toujours
aussi rayonnante. Merci beaucoup, Anna Moy.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de ce nouveau roman, 12 palais de mémoire, qui a été publié aux éditions Gallimard.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.